Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Cet été, je me suis rendue à Avignon et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Léo Cohen-Paperman, co-auteur de Génération Mitterrand et le metteur en scène de Génération Mitterrand. Lecture du prologue. Prologue, la rupture, 2022. Trois chaises de même couleur, une écharpe rouge est posée sur l'une d'entre elles. Marie-France. Bonsoir, je suis Marie-France, journaliste à Paris. Bonsoir, moi c'est Michel, ouvrier à Belfort. Luc, je suis... J'enseigne la géographie au collège Paul-Éluard de Vénissieux. En 1980, j'ai voté François Mitterrand. En 1981, comme Marie-France, j'ai aussi voté François Mitterrand. En 1981, comme Michel et comme Marie-France, j'ai voté François Mitterrand. En 2022, moi je vais voter Emmanuel Macron. Michel dans sa barbe. Ouais, normal. Pardon ? Luc, moi en 2022, je vais voter Jean-Luc Mélenchon. Moi, en 2022, j'ai voté Marine Le Pen. Ah oui ? Oui, j'ai voté Le Pen pour la retraite à 60 ans, pour l'arrêt de l'immigration, pour le retour de l'industrie française et des produits français. Je suis désolée, ce que je vais dire va peut-être choquer, Madame la bourgeoise et Monsieur Nuit Debout, mais moi je suis restée de gauche. Aïe ! Si je puis me permettre, je pense que Michel oublie un peu trop qu'être de gauche, c'est aussi, d'abord, surtout, défendre les opprimés, d'où qu'ils et elles viennent, et pas seulement les blancs et les blanches. Moi, je vais voter Jean-Luc Mélenchon contre le racisme et pour l'écologie. Surtout pour l'écologie, parce que là, je vous apprends rien, n'est-ce pas ? Il y a urgence. Oui, Luc, tu as raison. Il faut prendre soin de notre planète, même si, bon, pour ça, on va pas retourner à l'âge de pierre. C'est pas en bloquant des centrales nucléaires avec des banderoles anarchistes qu'on va faire avancer la transition écologique. Non, Luc. Et en même temps, j'avais envie de répondre à Michel qu'être de gauche, ce n'est pas nécessairement être nostalgique de la France des années 30. Je suis d'accord pour l'industrie française, mais pourquoi vouloir fermer les frontières à des gens merveilleux qui pourraient construire la France de 2030 avec nous ? Moi, je vais voter Emmanuel Macron parce que je ne crois pas à l'idéal. Je crois au travail et à l'ouverture sur le monde et à la construction européenne. Alors là, j'ai envie de répondre à Marie-France, cette espèce de connasse hypocrite qui se déplace qu'en Uber, que dans une France de gauche, on ne meurt pas à 50 degrés Celsius à Dunkerque en 2030. Même si je la respecte en tant que femme par ailleurs. Ben moi, j'ai envie de dire à la tarlouse islamo-soumise et à la pétasse des grandes villes que dans une France de gauche, on n'est pas réveillé à 5 heures du mat par des prières en bougnoule. Voilà. Eh ben, si je peux en caser une entre l'illettré raciste qui sent la bière de Clodo et la dépression longue durée et la couille molle écolo qui aime bien les migrants tant qu'il les a pas dans son canapé maison du monde, j'ai envie de vous dire qu'une France de gauche devrait pas filer un centime de plus à des putains d'assistés comme vous et à vos familles de beaufs, déjà gavées de pognon par Pôle emploi et l'éducation nationale. Silence, sidération. Bonjour Léo Cohen-Paperman, merci de répondre à mes questions. Donc, vous avez fait une mise en scène et une écriture hein, sur ce que vous avez appelé les huit rois, qui sont huit présidents de la République. D'où vient l'idée de travailler sur
ces présidents de la République et pourquoi les avoir appelés des rois ?
Plusieurs choses. La première, c'est que il y a une raison personnelle qui est que mon père était journaliste politique, qu'il est décédé il y a 12 ans et je dirais que c'est une manière de poursuivre un dialogue avec lui parce que c'est un monde c'est pas un monde que j'ai pu connaître, mais il me parlait beaucoup de ces choses-là à la maison quand j'étais petit, c'est un héritage pour moi. L'autre chose, et la plus importante, c'est que mon obsession, c'est la question du théâtre populaire, de comment on peut faire des spectacles où le public se sente à la fois concerné, où ils prennent du plaisir, même quand ils sortent d'une journée de travail, où on partage quelque chose avec les gens. Et je pense que ce sont des figures que... on partage, qu'on les aime ou qu'on les déteste, voilà. Mais il y a quelque chose où, même si on ne les a pas connus, on a les récits de ses parents. Ce sont des figures, les présidents de la Ve République, qui nous marquent. Et donc, c'est le ferment d'un théâtre populaire, en tout cas, c'est ce que je crois. L'exemple qu'on cite souvent avec Julien Campagny, avec qui j'écris la série, c'est Shakespeare, quand il écrit Richard III... les gens, les grands-parents des spectateurs ont connu Richard III. Donc c'est un roi qui a marqué les affects des gens qui sont dans la salle, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, ça nous renvoie à la fois à notre propre histoire. Où est-ce que j'étais le 10 mai 1981 ? On se souvient de ces grandes dates pour les gens de ma génération. Où est-ce que j'étais le 11 septembre 2001 ou le 13 novembre ? Et en même temps, ça nous permet de nous poser la question de ce dont on a hérité de ces hommes politiques. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette série. Et par ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est que il y a 8 rois, entre guillemets. Pourquoi des rois ? Parce que quand De Gaulle il fait la constitution de la Ve République, il a une phrase que je trouve géniale et très vraie. Il dit « J'ai résolu un problème de 150 ans ». C'est-à-dire qu'en fait, comme il y avait le parlementarisme de la 4e République avait mené quand même à la guerre de 40, à la guerre d'Algérie, les républiques parlementaires avaient... Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas avec ça en France. Voilà. Et donc, il décide de rétablir une verticalité dans le pouvoir avec des contrepoints, c'est-à-dire deux contrepoints. Le premier, c'est le premier, c'est l'élection du président au suffrage universel qui n'arrive pas tout de suite et contre laquelle beaucoup de gens se battent à ce moment-là, alors que c'est le lien direct entre le roi, entre guillemets, et son peuple. Le deuxième, c'est l'expression populaire régulière avec des référendums. Je crois que De Gaulle, il fait 7 référendums dans son mandat, c'est important. Et la troisième, c'est le fait que les élections législatives ont lieu à mi-mandat présidentiel. Ce qui fait qu'en fait, c'est un deal, la 5e République, normalement. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus vraiment en 5e République. C'est un deal qui fait que les gens acceptent un pouvoir plus vertical pour que le pays soit gouvernable, en théorie. En échange de quoi ? En échange, ils peuvent s'exprimer régulièrement. Et le sous-entendu qui n'est pas inscrit dans la Constitution, mais que De Gaulle avait pratiqué, c'est que si l'expression populaire est défavorable au président, il s'en va. C'est ça le principe. Et donc, je trouve que ça, tout ça produit, en fait, cette verticalité. Ça produit des figures, ces présidents dont on se souvient et qui imposent une vision du monde. Et c'est pour ça que j'ai décidé que chaque président aurait son expression artistique. Donc, De Gaulle, c'est un opéra. Sarkozy sera du stand-up. Hollande, du clown. Macron, c'est de la science-fiction. Enfin, voilà, chaque président, son style, ça c'est important dans la série, mais c'est parce que c'est une manière d'interpréter au théâtre ce qu'est la 5e République. Et d'autre part, la série raconte l'histoire d'une famille française. C'est 8 rois, entre parenthèses, nos présidents, parce que ce sont les nôtres, parce que nous les avons élus, les Français et les Françaises. Et on raconte l'histoire d'une famille française sur 4 générations, de 1958 à 2058, même sur 5 générations donc. Raconter ce qu'on voit, nous, à notre endroit, des bouleversements de la société française. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle 8 rois, nos présidents.
Je voudrais passer à Génération Mitterrand, qui a été aussi un bouleversement pour moi. Mais là, j'ai souri par moments, mais je n'ai pas ri du tout. Alors, c'est peut-être aussi parce que... Enfin, je pense aussi que... c'est qu'on est... En fait, c'est désespéré et désespérant. C'est-à-dire qu'on se dit, là, on parle de du seul homme de gauche qui a été élu et il a tout raté. Il y a un côté tragique, dans la manière dont c'est joué, où on est vraiment, contrairement à Giscard, dans la 16, quoi. Il y a trois chaises, il y a une table qui intervient à un moment donné. Il y a rien, quoi, au plateau, à part les acteurs qui sont très, très présents. Mais et il y a quelque chose de triste dès le départ. Est-ce que le choix de parler de la maladie, du cancer de Mitterrand, ça fait partie de cette idée d'être dans quelque chose où ça commence mal tout de suite, je trouve?
Oui, c'est vrai que c'est assez paradoxal, mais c'est à la fois ce cancer. C'est vrai que ça interroge, c'est-à-dire qu'au 6 mois après être élu, il apprend qu'il a un cancer. On lui prédit 3 ans, il décide de le cacher et il vit 15 ans avec. Il défie tous les pronostics médicaux. Et oui, avec Emilien Diardetoff, avec qui j'ai écrit le texte, on a voulu dire qu'en fait la maladie, elle accompagnait Mitterrand tout au long de ses 2 mandats et qu'elle en donnait la mesure d'une certaine manière. C'est-à-dire que on imagine qu'au début, sa manière de lutter contre la mort, c'est d'essayer de faire son programme. Ensuite, au moment où il décide de ne pas publier ses bulletins de santé, on trouve la métaphore aussi avec l'idée de qu'il fait un... Comment dire, qu'il cache, il cache sa santé, donc il cache le fait qu'il fait la rigueur. Et ensuite, il y a l'idée, voilà, pas d'une dissimulation, mais qu'il va transformer ce qu'a été historiquement la gauche. C'est-à-dire que la gauche était la force qui défendait les ouvriers, les classes populaires, et il décide d'en faire la force qui promeut l'antiracisme. Quoi. C'est vraiment né avec Mitterrand. Et ensuite devenir fer de lance de l'Europe, et là il se sert carrément de sa maladie. Ça, c'est quelque chose qui est documenté, c'est-à-dire qu'il joue avec sa maladie pour se poser presque en empereur, impressionnant, et pour en imposer à ses adversaires, quoi. Donc c'est vrai qu'on trouvait que la maladie, c'était un peu le fil rouge de son mandat, et que c'était intéressant de le traiter comme ça, et que aussi, moi, bêtement, c'est ce qui me le rend émouvant aujourd'hui. C'est un homme qui lutte contre la mort. Voilà, c'est universel, quoi, aussi.
Ouais, tout en gardant sa vision du monde, qui est quand même très forte. C'est-à-dire qu'il y a ça aussi que je trouve tragique, c'est qu'on s'aperçoit que il ne réussit pas à imposer sa vision du monde et qu'il est finalement assez seul pour... essayer de faire les réformes qu'il avait promises.
Oui, et puis qu'il est, je pense qu'il est pris entre 2 choses qui sont contradictoires. C'est son désir de travailler pour les classes populaires françaises du début des années 80 et son traumatisme d'enfant de la guerre qui fait qu'il ne peut pas... qu'il est obligé de faire l'Europe comme ça, de faire une Europe qui, en fait, lui empêche de faire ses lois sociales. C'est comme ça, c'est mécanique, c'est tout. Il choisit de préférer l'Europe. Et pour lui, c'est la paix, c'est-à-dire c'est effectivement c'est parce que c'est quelqu'un qui a connu la guerre. Je pense que ça a été un événement traumatique pour toute cette génération. C'est quelqu'un qui a été en camp de prisonniers quand même, enfin... qui s'est échappé, il a vu des gens mourir, quoi. Il faut pas, c'est pas, il a vu des gens revenir des camps. Enfin, c'est très 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 important dans sa biographie. Mais du coup, voilà, ça fait des choix politiques qui sont que il va préférer l'Europe à tout le reste, y compris au plein emploi, y compris au fait que à l'industrie française. C'est-à-dire que c'est lui qui dit contre le chômage, on a tout essayé, mais en fait c'est pas vrai, parce qu'en 83, on lui dit soit vous sortez du serpent monétaire européen et vous pouvez refaire une industrie, en tout cas arrêter sa saignée, soit vous restez dans le SME et vous allez l'industrie française va mourir avec la mondialisation. Et il fait un choix politique, voilà. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est son choix.
Et sa relation avec le FNRN, elle est aussi, enfin, on sait hein, quand on s'est un peu documenté, mais je trouve que c'est aussi intéressant là de montrer que finalement il est pas si net politiquement en fait, il est pas si à gauche que ça.
C'est au départ, c'est un peu l'inverse de Chirac, c'est-à-dire que c'est un homme qui est issu d'un milieu catholique de droite, très à droite. Les auteurs que Mitterrand aime, c'est Chardon, c'est vraiment des auteurs de droite, qui, à la faveur de la guerre, devient de gauche, parce que je pense que ce qu'il a vu à ce moment-là vraiment le fait réfléchir sur la notion, la question de la souffrance humaine, sur plein de choses. Mais pour lui, et là on touche à un... Pour lui... le fascisme, il dit Le Pen n'est pas un fasciste parce que pour lui, le fascisme, c'est prendre le pouvoir par la force. Or, Le Pen concourt, et de ce point de vue-là, on ne peut pas lui donner tort, je veux dire, c'est vrai. Mais il se rend compte aussi que, et là, c'est le côté machiavélien, et c'est le plus important, que s'il veut. Il a ce génie, ça, c'est un vrai génie politique, Mitterrand, un peu. Comprend des choses de son époque. Alors que c'est pas un homme tout jeune, mais il comprend qu'en fait, si le FN fait concurrence au RPR sur les questions identitaires, migratoires et sécuritaires, les classes populaires qui votent RPR, donc ce qu'on appelle la droite des garagistes, on va dire, elle va se mettre à voter FN. Et en même temps, il le diabolise. Ce qui fait que ça rend caduque l'union du RPR et du FN. Donc c'est une espèce de grenade qui balance dans les jambes de la droite. Et ça marche assez bien, en fait, parce que ça divise la droite et ça se fait en sa faveur. Donc en fait, il utilise le Front National pour, je dirais, diviser un électorat qui sinon aurait voté RPR. Parce que quand vous regardez ce que dit le RPR sur ces questions-là en 92, c'est une feuille de papier à cigarette. Enfin, ils ne sont pas du tout différents du FN. En fait, c'est le cordon sanitaire et tout ça, ça a été... c'est fascinant d'ailleurs, rétrospectivement, que ça ait marché, parce que c'est... Enfin, ça a marché que grâce aux sorties de Le Pen complètement délirantes sur le détail, sur toutes ces sorties. Oui, voilà, c'est ça... c'est-à-dire qu'il vraiment il a choisi de devenir le diable de la République. Il y a une scène qu'on raconte dans le Chirac en 88 où en fait il attend dans l'entre-deux-tours le coup de fil de Chirac qui le fait pas. On le raconte dans une scène du Chirac, mais sinon en fait sur le plan programmatique il y a aucune différence. C'est vraiment une utilisation assez incroyable de Mitterrand et de Jacques Pilan, son communicant, sur l'idée que pour qu'il y ait un dieu, il faut qu'il y ait un diable, en gros. Et donc, c'est un coup de génie politique. En même temps, on peut dire que c'est complètement cynique, pour plein de raisons, parce que ça coupe les gens d'une expression sur ces questions-là. Enfin, c'est quand même... Sur le plan moral, c'est vraiment très problématique, mais sur le plan politique, c'est vraiment génial, quoi. C'est ça. Voilà.
Oui, ça a été. La réélection de François Mitterrand a été enfin extraordinaire aussi quoi du coup hein, parce qu'on a eu là on s'est fait ouais on y a cru en fait. C'est ça, je trouve que c'est pour ça il y a une espèce de chagrin là qui traverse et je trouve que le personnage qui représente plus le plus bizarrement le chagrin pour moi hein, mais aussi peut-être aussi parce que je suis une femme, c'est le personnage de Marie-France. Parce que quand moi j'ai vu d'abord Giscard et après Génération de Mitterrand, et quand on voit que c'était la plus radicale en fait en termes de la plus à gauche en fait et qu'elle devient macroniste, c'est et en même temps on sait c'est vrai. Voilà. C'est pour ça que j'ai cherché en particulier son personnage. Et en particulier, le moment où elle est à la radio et où elle dit qu'elle a écrit un livre. Et donc, je l'ai cherché, ce livre. Et effectivement, j'ai une petite idée.
Dites-moi.
Moi, j'ai pensé à Laura Adler.
C'est exactement le modèle, c'est-à-dire quelqu'un qui est issu de cette gauche plutôt... libertaire, pour qui les questions sociales sont moins importantes que les... C'est la gauche culturelle, c'est la gauche de Jack Lang, c'est la gauche des métropoles, la gauche qui voit dans le journaliste berlinois un frère et dans l'ouvrier de Belfort un étranger ou un ennemi. On voulait parler de là, cette France, France qui réussit, en fait, France qui gagne, et qui a gagné... des gens de la génération de mes parents qui ont vraiment été les gagnants de ces périodes-là. C'est-à-dire que même si c'était la fin des Trente Glorieuses, il y a des gens qui se sont beaucoup enrichis avec l'immobilier, en prenant les bonnes vagues de la société au bon moment. Enfin voilà, j'ai vu autour de des parcours vraiment spectaculaires qui existent beaucoup moins aujourd'hui. Quoi. Voilà. Donc c'est ça qu'elle représente, et Laura Adler, pour nous, c'était aussi une manière de... Oui, c'est intéressant d'avoir des modèles, effectivement, quand on crée ces personnages-là, pour justement oser aussi leur donner quelques contradictions, oser leur donner vraiment cher. Et c'est intéressant, je trouve, comme personnage, parce qu'elle est... d'une certaine manière, elle est moins radicale que les deux autres, donc parce qu'elle vient d'un milieu populaire et en même temps, elle a changé. Elle est un peu d'accord avec les deux. Enfin voilà, c'est des personnages qui sont assez intéressants pour ça parce qu'ils sont leur ligne est pas tout le temps cohérente, mais c'est pour ça qu'on les aime aussi.
Oui, c'est pour ça qu'elle craque à plusieurs reprises. Alors oui. L'autre personnage que j'ai beaucoup aimé, c'est celui du prof d'histoire géo. C'est aussi parce que sans doute je suis prof. Et alors c'est pareil, c'est à la fois un stéréotype, mais il existe. Je l'ai reconnu. C'est mes collègues d'histoire géo.
Vous avez vu des scènes de salle des profs.
Oui. Mais la manière de parler, les vêtements, c'est la manière de se tenir. C'est ça, quoi. Enfin, c'est pas forcément le même corps, hein, mais c'est incroyable comment c'est juste.
Tant mieux.
Oui, mais c'est incroyable comment c'est juste. Et puis, ses relations avec sa mère, enfin, tout est vraiment... C'est un personnage aussi qui m'a profondément, que j'ai reconnu comme quelqu'un que je connais, que je côtoie tous les jours. Donc, et puis son engagement là, dans la gauche dite radicale, on voit aussi qu'elle est pas sûre, elle est pas vraiment cohérente non plus, quoi. Enfin, il y a personne qui se tient droit, quoi, dans cette histoire. Moi, c'est ce que j'ai trouvé qui était de l'ordre du chagrin, quoi.
Oui, je comprends. il est la conséquence directe de ce virage de la gauche. Qui fait que le grand combat de la gauche au mi-temps des années 80, ça devient l'antiracisme, en fait à l'exclusion du reste. Et du coup, ça fait forcément quelque chose d'un peu hémiplégique. Et en même temps, c'est quelqu'un qui trouve une... Je pense qu'en fait, ce combat-là, nous, on a beaucoup parlé d'une lettre de Saint-Paul... il n'y aura plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Il n'y aura plus que des enfants de Dieu. Enfin, je pense que derrière ça, il y a l'idée de la... paradoxalement, devant l'amour de la différence, il y a le désir
de l'unicité.
D'un lendemain universel.
Ouais.
Mais bon, je pense pas que ça. Enfin, il est devant son propre échec hein, en même temps. Donc, mais c'est ce qui peut rendre ce personnage touchant. C'est ça. C'est qu'en fait, il aspire à quelque chose à travers ce combat-là, pas seulement pour lui.
Ouais.
Il se préoccupe du monde, quoi. Et c'est ce qui le rend un peu ridicule aussi. Mais oui, c'est ce qui nous a donné du fil à retordre parce que c'est des sujets qui sont brûlants.
Ouais.
Surtout aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui. Moi, je pense que c'est la ligne de clivage, elle est plus sociale, elle est identitaire.
Ouais.
Et donc, en fait, voilà, on sait qu'on manie des concepts un peu.
Qui fâche.
Ouais, clairement. Ouais. Ouais. Donc, et en même temps, c'est pour ça qu'on s'est beaucoup documenté sur cette période-là.
Oui.
Et qu'on s'est rendu compte que les mèches de ce qu'on voit maintenant sont allumées dès ce moment-là, quoi, vraiment.
Ouais. Mais justement, c'est tous des personnages, y compris celui, le troisième personnage qui passe de communiste à FN. Il reste attachant, c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun dont on se dit « Ah, c'est vraiment un salaud pur, quoi !» Enfin,
oui, c'est ce qu'on se donne, c'est notre ligne la plus importante, c'est de nous dire « Nous, on n'est pas là pour dire ce qu'on pense, on est là pour écrire et pour être dans une empathie globale, quelles que soient les pensées des personnages. » Et après, les gens font leur choix. Ou pas d'ailleurs dans le spectacle et ça c'est très important, c'est que ce soit les présidents ou les personnages de fiction, on les regarde en face, ni d'en haut ni d'en bas, et on essaye d'avoir de l'empathie pour tout le monde et de leur donner corps, de leur donner chair.
Ouais.
Ce qui est pas tout le temps simple parce que enfin, voilà, on s'en doute quoi, mais c'est très important qu'on puisse se dire c'est ça, il n'y a pas de diable, il n'y a que des humains.
Oui.
Et ça, c'est notre grand défi dans la série.
Ouais.
Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Parce que à la fois, c'est très dur à faire pour les présidents parce que c'est des êtres qu'on a l'habitude de voir en représentation et là, on essaie de les mettre dans des situations
qui ont été
théâtrales.
Déifiés.
Oui, c'est ça, plus. Ou déifiés ou détestés.
Oui, bien. Enfin, c'est le même.
Mais qui est un peu déshumanisé dans les deux cas. Et les personnages de fiction qui incarnent. Voilà, on sait qu'il y a des gens qui vont avoir plus ou moins de sympathie pour certains courants de pensée. On essaye ils peuvent être drôles, évidemment, parce que c'est que des comédies. Mais je sais pas, on essaye de jamais les regarder d'en haut.
Oui, c'est ça.
On essaye de toujours comprendre.
Voilà. Oui, c'est ça.
Et c'est un travail qui est passionnant à faire, parce que ça permet de sortir de soi. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans l'écriture.
Oui, dans l'écriture, ouais. dans le théâtre et pour le spectateur aussi.
Ouais, c'est ça aussi. On se dit comme ça, on va pas livrer aux gens un prêt-à-penser. Les gens sont assez grands. On va pas changer leurs opinions. En fait.
Non.
Les spectacles, ils ne changeront. On n'est pas là pour ça. Donc, ça, c'est. Je suis content que vous ayez vu ça parce que c'est ce à quoi on est le plus attaché quand on écrit.
Oui, c'est ça, c'est un spectacle. Après, on réfléchit, ça tourne.
Oui, et puis on veut essayer de comprendre ce qui fait les grands affects collectifs.
Oui, c'est ça, ouais.
C'est ça qui peut-être peut créer une. Ce qui peut faire que les gens s'intéressent vraiment beaucoup au spectacle, c'est qu'ils reconnaissent là des affects dans lesquels ils sont pris aussi,
voilà, ouais.
Collectivement, quoi.
Ouais. Voilà.
Pourquoi c'est si important, moi ça me passionne, je sais plus quel historien disait, il y a des affects propres à chaque parti politique, la gauche c'est le ressentiment, des affects négatifs, je veux dire. La droite c'est la peur, c'est intéressant de penser les choses aussi comme ça, parce que ça nous permet aussi nous de comprendre intimement pourquoi on se sent plus ou moins lié à tel ou tel mouvement de pensée politique.
C'est ça. Voilà. Et comment on peut passer d'un mouvement politique à un autre,
Oui, bien sûr. Surtout aujourd'hui où les électorats sont beaucoup plus liquides qu'avant.
Ouais.
Et donc c'est... C'est vraiment ça le cœur du projet.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Léo Cohen-Paperman pour cette magnifique rencontre. J'invite tout le monde à venir voir, dès que possible, Génération Mitterrand, cette magnifique pièce coécrite par Émilien Diard de Teuf et Léo Cohen Paperman, que vous pouvez lire aux éditions Est-ce que ?